Bonjour à toutes et à tous, c'est Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, à Périgueux et dans ses environs aussi, sur le 102.3 FM et le 95.9 MHz sur Radio Plaisance. Exceptionnellement, cette émission est enregistrée, nous sommes le mercredi 7 décembre et nous avons par téléphone, n'est-ce pas, Grégory Chamba, qui va nous parler de son livre, qui est « Pédagogie et révolution, questions de classe et relecture pédagogique ». Donc toi, tu es enseignant depuis 1995.
Oui.
Tu travailles avec des élèves non francophones au collège dans le 78.
Oui, à Mans, exactement. Dans une, on appelle ça une classe pour élèves qui viennent d'arriver en France et qui parlent pas ou peu le français.
Très bien. Et aussi, tu fais partie du comité de rédaction de la revue Notre École.
Voilà, qui est une revue qui s'intéresse à tout ce qui touche à l'école au sens très large, à l'éducation, et qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, en 2012.
On en parlera un peu plus longuement aussi là-dessus. Et tu as publié aussi d'autres livres avant. Donc c'était « Instruire ».
Pour révolter,
c'était
un petit travail sur Fernand Pelloutier et l'éducation. Fernand Pelloutier, c'était un des animateurs des bourses du travail au début du XXe siècle. Et puis le second livre, c'était des entretiens avec des militants de la CNT Éducation, à laquelle j'appartiens aussi et dans laquelle je milite syndicalement.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter la démarche du livre ?
Oui, alors, ce livre, en fait, c'est un recueil de chroniques qui ont été initialement publiées dans la revue Notre École, dont on parlait, et il s'agissait de présenter un petit peu des moments ou des personnages de la contestation pédagogique à travers leurs écrits. C'est-à-dire que l'idée de départ, c'était de s'intéresser à des textes, à des ouvrages ou à des écrits autour de l'éducation, et puis d'essayer de les aborder en voyant qu'est-ce que ces personnes. Alors, c'est très, ça balaye une période historique très large, puisque ça va de la naissance de l'école de la République sous Jules Ferry jusqu'à une école Freinet dans la banlieue lilloise dans les années 2000-2010. Et donc il s'agissait de voir comment ces expériences, ces réflexions et ces pratiques pouvaient nous aider aujourd'hui dans nos pratiques d'éducateurs, d'enseignants, et puis dans notre critique et notre réflexion sur l'école.
Mmh, c'est ça, il y a un aller-retour entre, on pourrait dire, un côté théorique et puis les pratiques et les questionnements d'actualité, quoi.
Voilà, c'est une démarche, en fait, très, très égoïste. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans ces textes, ces recherches et ces réflexions, c'était vraiment pour, pas dans une perspective historique, parce que je ne suis pas historien, pas non plus dans une perspective philosophique, mais vraiment pour voir qu'est-ce qui pouvait me nourrir dans ces réflexions, et puis parce que j'avais depuis plusieurs années, j'avais été marqué par un certain nombre de phrases, en fait, de formules qui avaient résonné en moi. Alors ça peut être Fernand Pelloutier qui parlait d'instruire pour révolter, c'est aussi Paulo Freire qui voulait travailler sur une pédagogie des opprimés, ça peut être Illich avait intitulé un de ses livres « Une société sans école ». Et tout ça, c'était des formules qui me séduisaient, qui m'intriguaient, et que j'ai voulu essayer de comprendre, de gratter un petit peu, et puis éventuellement de transmettre aussi pour continuer la réflexion et puis la lutte, parce que ça s'inscrit dans une lutte, tout ça. C'est pas gratuit.
C'est vrai qu'on qu'on passe par des personnages. Il y a aussi le personnage d'Albert Thierry qui est méconnu et qui est quelqu'un de super intéressant à découvrir, quoi. Sur justement l'attention au concret et le fait de partir des élèves eux-mêmes pour construire un enseignement, qui est un enseignement qui est aussi consciemment un enseignement d'émancipation, quoi, d'élévation sociale.
Ouais, Albert Thierry, c'est une des figures, alors peut-être les moins connues, mais en tout cas une avec laquelle la rencontre est vraiment très très forte. C'est, pour le resituer un petit peu, c'est un instituteur qui va s'occuper aussi d'une école normale à Versailles, qui travaille au début du XXe siècle, et en fait il va rentrer dans l'enseignement au moment où la CGT du début du siècle est en plein essor, en pleine phase ascendante, et lui il va chercher un petit peu la façon dont le mouvement ouvrier pourrait se construire une école. Et il arrive à cette réflexion nourrie de ses pratiques, et notamment le point de départ de son travail et de sa réflexion, c'est une anecdote qu'il rapporte dans un de ses livres, L'homme en proie aux enfants, où en fait il vient tout juste de sortir de sa formation, c'est un de ses premiers postes, si ce n'est le premier, et il décide de lire à ses élèves un passage des Misérables, une scène qu'il a choisie d'une façon assez précise. Alors il dit pas laquelle, mais probablement, moi je soupçonne le moment où Gavroche est sur les barricades et où il va se faire fusiller, abattre. Il lit cette scène à ses élèves avec le secret espoir de remuer quelque chose chez eux. Voilà, il choisit Victor Hugo, un grand texte, une dimension de révolte, d'injustice, en tout cas de lutte contre l'injustice. Il leur lit ce texte et aucune réaction. Silence dans la classe. C'est la cloche sonne, c'est la récréation. Et en observant ses élèves dans la cour de récréation, il les voit en train de rejouer cette scène qu'il leur a lue, mais complètement à l'envers de ce qu'il espérait, c'est-à-dire en tournant en dérision le petit Gavroche, en faisant des soldats qu'il avait abattus, les héros de ce jeu enfantin. Et il en est tout bouleversé. Et donc de là, il va se dire, si on veut mettre en place une éducation émancipatrice, c'est pas simplement en racontant des belles histoires, ou c'est pas simplement en faisant des discours révolutionnaires enflammés qu'on va arriver à quelque chose. C'est plutôt en étant à l'écoute de l'autre, de ses besoins, en développant une pédagogie, alors que lui va appeler ta directe en référence syndicale de l'époque. Et toute son œuvre va être assez courte, puisqu'il va être tué pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Il va essayer de répondre à cet objectif.
Alors, on a un point technique, on a des petites coupures quand tu parles.
C'est, ouais, c'est le téléphone. Ouais. À mon avis, c'est ça.
Mais il n'y a rien à faire, en fait.
Non. Ouais. À moins que tu ailles vite t'acheter un autre téléphone, Greg. Oui, ouais, t'attends. Attention, il y a plus de 50 minutes d'émission. Alors, dépêche-toi.
Alors, après Albert Thierry, on peut peut-être évoquer Pelloutier, parce que c'est un peu une réflexion qui est liée, logiquement, quoi.
Oui, alors ils sont Pelloutier, il vient un petit peu avant Albert Thierry. Ce qui est intéressant, c'est que Pelloutier, donc lui, c'est un syndicaliste, il n'est pas du tout dans le milieu enseignant, il a fait ses études plus ou moins chaotiquement, c'est davantage un autodidacte, mais ça va être une des figures les plus importantes du mouvement ouvrier français en ce qu'il va être un des animateurs de la Fédération des Bourses du Travail. Et il va, dans ce cadre, s'intéresser à la dimension éducative du syndicalisme et des bourses du travail. Et donc, à partir de là, il va, va militer pour que l'enseignement soit aussi un enseignement pris en charge par les syndicats, que des cours soient réalisés dans ces bourses du travail. Alors c'est des cours, c'est des bibliothèques, c'est des conférences. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle nous rappelle que l'éducation, c'est pas simplement l'école, et que il y a aussi d'autres endroits pour apprendre, où on apprend tout aussi bien, si ce n'est parfois mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension là chez Pelloutier, elle se nourrit d'une critique de l'école de la République, qui est une critique qu'on a peut-être aujourd'hui tendance à oublier, mais tout au long de la dernière partie du 19e et du début du 20e siècle, le mouvement ouvrier a une position très distante vis-à-vis de l'école de la République, de l'école de Jules Ferry. Alors distante, ça s'explique historiquement par la personnalité de Jules Ferry. C'est un personnage assez peu attirant, c'est un des chantres du colonialisme français. C'est quelqu'un qui avait vécu la commune, qui avait dû quitter la commune parce qu'il était menacé par la population. Il était maire d'arrondissement à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui va mettre en place l'école de la République, comme il l'appelle, pour principalement éviter et écarter tout danger révolutionnaire. C'est ce qui retient de la commune. C'est que l'éducation, l'instruction, ça peut être aussi des éléments qui peuvent ébranler le système social, et donc il va s'efforcer de mettre en place une école au service de cet objectif. Alors, on pourra peut-être plus tard rentrer dans les détails, mais Pelloutier, il s'oppose, c'est un anti-Jules Ferry, on va dire, et dans les méthodes et dans les discours.
C'est très intéressant de revenir là-dessus, moi, tout à l'heure.
Jules Ferry, il avait la formule il fallait instruire en détournant le peuple de l'instruction qu'il revendiquait pour son émancipation, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie de l'époque qui théorise l'école au service des patrons et contre les intérêts de la classe travailleuse.
Tout à fait. Alors souvent, quand on dit ça comme ça, c'est tout à fait juste historiquement et théoriquement, mais il y a toujours de la part chez les gens, oui, d'accord, mais il a quand même apporté l'école publique, gratuite, obligatoire, laïque. Et si on prend les choses les unes après les autres, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins net que ça. Alors l'école est laïque, mais les devoirs envers Dieu vont continuer à être enseignés en gros jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État. Et puis surtout, et ça c'est des études qui ont été menées par des historiens comme Mona Ouzouf par exemple, on s'aperçoit qu'au moment où Jules Ferry crée son école, il s'agit plus d'alphabétiser la population française. Elle est déjà, le peuple sait déjà lire, écrire, compter. C'est un mouvement qui naît à partir de la Renaissance jusqu'à la fin du 19e. Et l'objectif de Jules Ferry et de son école, c'est pas du tout d'instruire la population, c'est de transmettre une morale républicaine, c'est d'occuper une population qui depuis un peu moins de 10 ans en fait, pour ce qui est des enfants d'ouvriers, est un peu désœuvrée, puisqu'il y a des lois sur le travail des enfants qui ont été adoptées et donc qui sont plus à l'usine, lieu où ils étaient avant, donc ils se retrouvent un petit peu dans les rues désemparés, donc il faut bien occuper cette jeunesse-là. Et donc le projet de l'école de Jules Ferry, il est important aussi de le distinguer, de le séparer d'un simple projet éducatif ou scolaire. C'est une école, mais pas n'importe quelle école. Et je crois que aujourd'hui, on aurait tout intérêt à garder aussi ça en tête. C'est-à-dire que notre système éducatif, il est le fruit d'une histoire et d'une politique qui, pour ce qui concerne Jules Ferry, s'est arrêtée, on va dire en gros, au milieu des années 60, au moment où tout le monde a eu accès, en gros, je schématise, mais tout le monde a eu accès au collège unique, mais on vit toujours sur ce que Jean Foucambert a appelé le mythe de l'école de Jules Ferry. Et on le voit bien, là, les projets de l'UMP, c'est l'école en uniforme, se lever quand le maître rentre, chanter la Marseillaise, et j'en oublie, je sais plus ce que j'ai entendu ce matin, mais il y avait l'uniforme, et oui, et le vouvoiement. Donc on vit toujours, non plus sur ce fonctionnement où il y a deux écoles, une pour la bourgeoisie, une pour le peuple, mais sur le mythe et des éléments qui nous restent et qui sont très très forts.
Oui, c'est un instrument idéologique, en fait, de façonnement de la population, quoi.
Oui.
Mais est-ce que c'est si vrai que ça que, c'est pas, est-ce que l'UMP, en agitant le mythe Jules Ferry, est-ce que c'est vraiment une volonté de retour en arrière? Parce qu'il y a quand même toutes ces réformes qui visent à casser, en fait, ce service public d'éducation et qui vont vers la privatisation de l'école, vers la marchandisation de l'éducation, quoi.
Ouais, pour répondre, je vais repartir sur le début de ta question sur est-ce que, enfin, l'articulation service public et école de Jules Ferry. Foucambert, là, qui a étudié de façon très intéressante et brillante le mythe de l'école de Jules Ferry, il rappelle aussi une chose, il rappelle que l'école a déformé les opprimés autant que eux l'ont déformé. Et quand on parle d'école, quand on parle de système éducatif, il faut, je pense, toujours éviter la caricature. C'est-à-dire que c'est effectivement un instrument d'oppression, un appareil idéologique d'État, etc. Mais c'est aussi, dans le même temps, un élément d'émancipation qui apprend à lire, écrire, qui ouvre sur la culture, etc. Et c'est pour ça que souvent, c'est assez compliqué d'avoir des positions sur l'école en essayant de prendre en compte sa complexité. L'école, elle a deux faces. Les personnels qui travaillent, ont une fonction qui se joue sur plusieurs niveaux, et il faut toujours garder en tête cette idée-là. Alors, pour revenir sur l'articulation des discours de l'UMP et puis du néolibéralisme, là j'ai travaillé il y a quelques semaines sur une association qui s'appelle SOS Éducation, qui est un groupe d'extrême droite, pour le dire vite, mais on peut résumer ça comme ça, et qui est une association qui fait beaucoup parler d'elle, enfin qui essaye en tout cas de faire beaucoup parler d'elle, en ayant un discours particulièrement réactionnaire sur l'école. Alors ça a été la dénonciation de la méthode globale et le retour à la syllabique, c'est la dénonciation de tout ce qui est le lobby marxiste ou le lobby homosexuel ou tout ce qu'on veut, enfin ces lieux communs et ces clichés habituels réactionnaires. Et cette association, en fait, c'est un groupe qui est un groupe ultra-libéral. Et moi, je me suis un petit peu posé la question de la compatibilité entre les deux, et j'ai l'impression qu'on peut très bien avoir un discours, et y compris des pratiques réactionnaires, nostalgiques sur l'âge d'or de l'école, et avoir une visée libérale, de marchandisation, etc. Les deux sont pas incompatibles. Et il y a eu un article dans la revue des livres là de Charlotte Norman, qui est la personne qui a fait la préface de mon livre, qui s'interroge aussi sur les rapports entre l'école publique et l'idéologie libérale, justement sur ce que tu disais de cette marchandisation là qui est en marche. Et ce qu'on constate, c'est que cette marchandisation, cette libéralisation, premièrement, elle a l'air de s'implanter plutôt facilement au sein de l'école. Elle rencontre pas une résistance si terrible que ça, comme si elle y trouvait aussi un terrain qui pourrait être favorable. Et puis Charlotte Norman pose la question de savoir dans quelle mesure l'idéologie qui est véhiculée par l'école ne rejoint pas aussi dans certaines mesures l'idéologie libérale. L'école, c'est un système de compétition où on met les élèves dans de la compétition et non pas dans de la coopération. Il y a du classement, il y a du tri, il y a des notes, il y a de l'évaluation. Il y a tout un tas de fonctionnements qui font que c'est un service public, mais c'est un service public qui, depuis très très longtemps, est aussi au service d'une certaine vision de la société, voilà, qu'on peut retrouver dans les discours néolibéraux aujourd'hui.
D'accord. Oui.
Donc, question complexe. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à creuser.
Oui, tout à fait, oui. Donc, on parlait de l'école, de la complexité d'appréhender le rôle exact de l'école, le rôle social de l'école. Et parce que en fait, il y a une théorie qui est assez reconnue, qui est que l'école, elle reproduit les inégalités sociales. Elle est là pour maintenir l'ordre existant, même si elle fait aussi passer du savoir, et elle pourrait être aussi un instrument d'émancipation, quoi. Moi, c'est un chapitre qui m'a un peu interloqué, on pourrait dire. C'est le chapitre sur la critique de Bourdieu, de l'apport de Bourdieu vu par Jacques Rancière, je crois.
Oui.
Donc je connais un peu Bourdieu, peut-être un peu moins Jacques Rancière. Et en fait, il y a une c'est une des parties du livre où il y a une remise en question un peu de l'apport de Bourdieu là-dessus.
Oui, parce que en fait, Bourdieu, moi je tenais, enfin j'en parle un petit peu dans l'introduction. Il s'agissait pas de présenter simplement des pédagogues ou des moments de l'histoire, parce qu'il y a aussi sur le syndicalisme français, puis sur la Révolution espagnole, l'apport de la sociologie, il est vraiment très très important. Et Bourdieu, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'analyse de l'école, d'abord en essayant de creuser la réflexion sur l'école et en montrant que l'école simplement ne reproduit pas les inégalités. Ce qui montre, c'est que c'est encore plus grave, c'est-à-dire que elle va les légitimer et elle va faire intérioriser aux élèves ces inégalités. On pourrait, limite, dans une société libérale, capitaliste, se dire l'école, elle prend les élèves au départ et elle les relivre à l'arrivée à l'école avec le même classement social, mais elle apporte quelque chose de plus. Elle a une plus-value dans ce fonctionnement, c'est que elle va faire intérioriser et faire accepter aux élèves, aux enfants, leur position sociale au sein de la société. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. Alors, Bourdieu, il est très très intéressant pour ça, parce qu'il va affiner cette critique à un moment où, quand il écrit, on a une critique marxiste de l'école très très carrée, c'est-à-dire voilà, c'est reproduction des inégalités, c'est l'école de la bourgeoisie, et puis c'est comme ça. Lui, il va montrer que les choses sont plus compliquées, et surtout qu'il y a ce rôle, et que donc autant il va admettre que si on veut changer les classes sociales, ce sera pas à l'école qu'on le fera, mais c'est par un changement de la société. Par contre, on peut travailler sur cette légitimation des hiérarchies sociales à l'école. Et de ce côté-là, voilà, il apporte quelque chose de fondamental et qui est souvent pas mis en avant. Bourdieu, c'est simplement les héritiers, la reproduction, alors qu'il y a quelque chose de plus. Et quelque chose au bord duquel c'est ce que on peut voir quand on prend le relais ensuite avec Rancière, c'est que c'est comme si, arrivé à un certain niveau, Bourdieu il s'arrêtait et il se disait bon, voilà, l'école, est-ce que c'est simplement le reflet de rapports sociaux, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui s'y joue? Et dans ses textes, notamment les plus tardifs, voilà, il va s'interroger un petit peu sur la spécificité scolaire pour combattre ces inégalités. Et là où Rancière, ensuite, entre autres, c'est que Rancière, il va renverser, voilà, plutôt critique de Bourdieu quand il écrit Le philosophe et ses pauvres, il va renverser la perspective et lui, il a une démarche qui est beaucoup plus radicale, tout aussi critique sur l'école, mais qui va poser comme point de départ qui est que quand on parle de l'inégalité, on y revient. C'est-à-dire que si on part du présupposé qu'il y a des inégalités, il parle d'inégalité d'intelligence, forcément, à l'arrivée, on va retrouver ces inégalités d'intelligence. Et que l'éducation émancipatrice, c'est une éducation qui fait le pari de l'égalité des intelligences. Mmh. Et là où ça heurte un petit peu Bourdieu, c'est que, et là on passe simplement sur l'école, mais c'est que sa position vis-à-vis du rôle de l'expert ou vis-à-vis de l'intellectuel, elle est un peu trop souvent, la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que il y a celui qui sait, et celui qui sait, il a un rôle central par rapport à celui qui sait pas, par rapport à l'opprimé, par rapport à l'ouvrier. Et chez Bourdieu, on voit pas bien comment l'ouvrier pourrait s'émanciper lui-même. On sent qu'il a besoin d'une parole d'expert, on sent que, ou alors, il a besoin de changer de camp, de passer dans le camp de des gens cultivés, des gens qui savent. Et là, je trouve que ça coince un petit peu, puis un peu en contradiction avec les autres modèles. On a parlé de Pelloutier ou tout ça, où il y a vraiment une auto-émancipation. On la sent pas trop chez Bourdieu, je trouve, cette auto-émancipation.
Ouais, c'est-à-dire que Bourdieu, en fait, il dit que la science est émancipatrice, quelque part. Donc, c'est-à-dire que les scientifiques, ils doivent, enfin, la sociologie, qui est la vérité des rapports sociaux, les sociologues, ils doivent faire l'effort d'aller restituer cette vérité-là pour que les classes dominées puissent retourner le savoir, enfin, s'armer de ce savoir et de cette vérité. Et l'utiliser comme instrument d'émancipation, quoi. Ouais.
Ce à quoi Rancière répond, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer l'exploitation. Ce qui est pas totalement vrai non plus, mais qui en tout cas touche quelque chose de juste, à côté duquel passe peut-être Bourdieu. Mais on a quand même aujourd'hui 150 ans d'école publique, d'apprentissage, de connaissances, de savoirs qui ont été propagés sans que ce savoir n'ait donné un pouvoir à la population, ou en tout cas sans qu'il ait permis de changer les choses d'une manière plus positive. Donc il y a ce rapport entre ignorance et savoir, il est compliqué quand même.
Oui, ben justement, on peut parler de ces pédagogies libertaire ou ces pédagogies émancipatrices. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement les principes
Oui, il est très intéressant ce livre pour ça, parce que moi, à part Freinet, je connaissais rien. Hein, donc,
là, c'est-à-dire l'enseignement mutuel,
le collectif,
la solidarité. Il y a, alors, on va peut-être partir de l'enseignement mutuel parce que c'est assez fondateur. L'enseignement mutuel, c'est un enseignement qui est arrivé en France, importé de l'Angleterre, à la fin de l'Empire et au début de la Restauration, en 1815, pour répondre à un problème bien concret qui était une augmentation des besoins éducatifs. C'est-à-dire qu'une population qui avait besoin d'être éduquée et qui avait besoin d'acquérir rapidement des connaissances de base, lire, écrire, compter. Et le deuxième problème, c'était le manque de personnel formé pour ça. Thème qui a été tenté par des Anglais, qui consistait à mettre en place des moniteurs, c'est-à-dire que il y avait un professeur qui allait enseigner une dizaine d'élèves assez avancés, qui comprenaient vite la leçon du jour, et charge à ces moniteurs d'aller ensuite se rendre auprès d'une dizaine d'élèves et de leur transmettre ce que le maître leur avait appris. Et ce qui leur permettait eux de l'intégrer beaucoup mieux, qu'ils le répètent, et ça leur permettait d'être compris ou pas. Et ce système, en fait, il repose sur la coopération et non pas sur la compétition entre les élèves, dans certaines écoles mutuelles, les moniteurs n'étaient pas les mêmes, mais ça, c'était pas toujours le cas. Et ce système, en fait, c'est Anne Kerrien qui a écrit un ouvrage là-dessus. Ce système, il va être abandonné parce que, très paradoxalement, et ça rejoint sur ce que je disais précédemment, il va être jugé par les autorités de l'époque trop efficace, c'est-à-dire qu'il apprend trop vite aux élèves. Donc après, on ne sait plus quoi en faire une fois qu'ils ont appris les connaissances de base. Et puis, visiblement, il apprend un peu trop la désobéissance. Et Anne Kerrien, elle précise qu'apparemment, beaucoup de militants de la Première Internationale seraient passés par cette école mutuelle. Et donc, à cette école mutuelle, on va opposer l'école des Frères des écoles chrétiennes, qui est celle qui va servir de modèle à l'école de Jules Ferry, où on a d'autres principes. Et ces principes, c'est ceux que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire l'individualisme. C'est-à-dire on apprend tout seul, on ne doit pas tricher, on ne doit pas copier, on ne doit pas s'entraider, on est dans de la compétition, dans du classement, et pas dans de la coopération. Voilà, ça c'est un élément qu'on va retrouver dans les différentes pédagogies alternatives, c'est-à-dire cette opposition entre de la compétition et de la coopération. On est dans un système où la hiérarchie est très très importante dans l'école publique telle qu'elle est mise en place par Jules Ferry, notamment à travers les écoles normales. Il faut un culte absolu au maître, au directeur d'école, alors que dans les pédagogies alternatives, on va travailler sur un autre fonctionnement, un fonctionnement collectif et donc un fonctionnement démocratique. C'est Freinet qui dit que on prépare la démocratie de demain dans l'école d'aujourd'hui. Et pour apprendre la démocratie, bah, il faut la pratiquer. Il n'y a pas d'autre méthode. Et donc, ça, c'est un petit peu des invariants qu'on va retrouver. Il y a un travail collectif, un travail de groupe, un travail où on se nourrit des apports des autres, où on échange, et puis un fonctionnement qui tend vers un fonctionnement démocratique ou un fonctionnement autogestionnaire. C'est en gros ce qui permet de brouter un tableau très très rapide de ces contestations pédagogiques de l'école telle qu'elle est.
Toi, tu présentes ta perspective comme une pédagogie socialement critique. J'avais relevé une petite citation. Oui. Quand tu parles du professeur révolutionnaire, qui n'est pas celui qui parle de révolution, même s'il ne doit pas se l'interdire, son rôle consiste sûrement plus à analyser les conditions objectives, culturelles, institutionnelles, didactiques, qui limitent son projet émancipateur au sein de l'école. Son enseignement prend alors une triple dimension critique, une critique en termes d'efficacité scolaire des contenus, méthodes et finalités actuelles de l'éducation, une critique en acte à travers ce qu'il est possible de mettre en place dès aujourd'hui, et enfin une critique révolutionnaire à travers des pratiques qui ne visent plus seulement à mettre de l'huile dans les rouages du système, mais bien à accumuler les grains de sable qui peuvent bloquer la machine. Donc à partir de cette citation, j'aurais envie de te demander, dans ton travail de tous les jours avec les enfants, comment tu... Je ne sais pas si tu as des exemples de comment ça se passe, comment ça se passe concrètement, quoi.
Oui. Alors, déjà, un exemple que je prends souvent, parce que pour illustrer je ne suis pas le seul à l'appeler cette pédagogie sociale, mais en classe, différentes études sociologiques ont démontré que la répartition de la parole entre les filles et les garçons, elle était particulièrement inégalitaire et que les garçons monopolisaient la parole, la prise de parole en classe à peu près. Donc, si on prend une classe où c'est réparti 50-50, on va avoir les trois quarts du temps des garçons qui vont parler et les filles vont avoir les 25% restants. Et puis si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que non seulement il y a une inégalité en termes d'occupation du temps de parole, mais il y a une inégalité aussi sur la nature de cette parole. C'est-à-dire que on va s'appuyer sur les filles pour faire un rappel du cours, pour revoir ce qui a déjà été dit, pour bien compris. Et puis quand on, une fois que le cours est lancé et qu'on va être à la recherche de nouvelles idées ou de nouvelles façons, je sais pas, de résoudre un problème de mathématiques, au moment où c'est plus la mémoire qu'on va solliciter, mais plus l'intelligence, là c'est les garçons qui vont prendre le relais et à qui on va s'adresser en priorité pour leur demander de résoudre un problème auquel on n'a pas encore été confronté. Donc ça c'est ce qu'on constate en classe. Et par rapport à ça, alors c'est pas moi qui l'invente, il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette méthode. Il y a un système très simple, comme je disais, de mettre ça dans ce rouage-là, c'est de donner alternativement la parole systématiquement à un garçon puis à une fille, ou une fille puis un garçon, dans le sens qu'on veut. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a pris ce pli, ça roule tout seul, les élèves s'y adaptent très bien, ils nous rappellent quand on l'oublie, et c'est un petit peu une manière, à partir du moment où on est attentif, ce que je disais, on est attentif au fonctionnement et aux implications, aux implicites sociaux qui sont à l'œuvre dans le cours, dans la classe, il peut y avoir des méthodes qui permettent de les faire dérailler un petit peu, ou en tout cas de tordre le bâton un petit peu dans l'autre sens. Donc ça c'est un exemple très simple et puis que j'aime bien évoquer parce que on peut le faire de la maternelle à l'université en petits groupes, en grands groupes, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc ça c'est un exemple. Mais après sur la manière dont j'essaye, parce que c'est toujours avoir une extrême humilité et c'est toujours quelque chose vers lequel on tend, une pédagogie émancipatrice, c'est toujours un horizon qu'on essaye d'atteindre, par exemple avec ma classe d'élèves non francophones, là, j'en ai 25 cette année, on a chaque semaine un conseil hebdomadaire qui est la réunion, alors c'est la dernière heure de cours de la semaine où tous les élèves sont réunis, parce que je les ai pas forcément tous en même temps, et où on va faire le point de notre travail de la semaine, où on va évoquer des projets, régler des problèmes, puis se féliciter, se critiquer, et ce conseil, il est pris en charge, et il est organisé entièrement par les élèves. C'est-à-dire qu'il y a un ou une présidente de séance qui va distribuer la parole, il y a un secrétaire qui va noter l'ordre du jour au tableau, les sujets sur lesquels on va discuter. Et donc chaque semaine, on a ce conseil qui est une espèce de petite réunion ou de petite assemblée de la classe. Et ce conseil, il fait l'objet d'un compte-rendu. Et donc le lundi matin, on a le journal de la classe, qui est un journal interne, où il y a le compte-rendu de ce qui s'est dit le vendredi, des décisions, voilà. Tout ça avec des élèves, pour revenir peut-être à notre discussion sur Bourdieu, tout ça avec des élèves non francophones. Mmh. C'est-à-dire des élèves qui parlent avec difficulté et qui, parce qu'ils sont dans une situation de communication réelle, parce que quand il y a un conflit entre deux élèves, on n'a pas forcément la même langue, si ce n'est le français qu'on est en train d'apprendre. Tout ça peut être des outils qui servent à la fois dans la démarche d'apprentissage, mais aussi dans une perspective d'émancipation ou démocratique.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant ces exemples, parce que ça montre que c'est des petites choses qui peuvent aller de choses très concrètes à des... Oui, c'est des fonctionnements très, 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 très simples, en fait.
Ouais.
Qui change beaucoup de choses, quoi.
Ouais. Ça, c'est le conseil. C'est l'élément, le biais par lequel je suis rentré, mais d'autres, ce sera la correspondance, ce sera le journal scolaire, ce sera ces choses-là. Mais une fois qu'on est rentré dedans, on s'aperçoit que tout ça s'articule, les éléments s'articulent les uns avec les autres.
Mmh. D'accord. Oui.
En tout cas, on voit que si tu as fait justement toutes ces recherches-là, que tu en as fait un livre et tout ça, c'est que ça t'aidait en tant qu'enseignant aussi?
Oui, c'était le point de départ. C'est en tant qu'enseignant, en tant que militant, les deux. Ça répondait à deux préoccupations. Et voilà, et puis ce conseil, bon, en ce moment, ça tourne bien, mais il y a eu des périodes où c'était plus difficile, où j'ai fait des premiers essais, où ça a échoué, donc il a fallu revenir dessus. Il y a besoin de ce soutien, alors qu'on peut trouver dans plein d'endroits, mais qu'on peut trouver notamment à travers les expériences antérieures. Il y a Korczak aussi, qui est un médecin polonais qui avait un orphelinat, qui insiste beaucoup sur le rapport entre l'écriture et l'éducation. Et Korczak, il souhaitait que dans les écoles normales, ce qui était les ex-IUFM, il y ait des cours de journalisme pédagogique, c'est-à-dire que ce recul qu'on peut avoir en écrivant sur nos pratiques, sur nos expériences, oui. il est très très enrichissant. Et je crois que c'est quelque chose de très juste. Il y a la solitude du coureur de fond, mais il y a aussi la solitude qui est constitutive du système éducatif français. Par exemple, en Finlande, il y a deux enseignants dans les classes en primaire. Et à oui. partir du moment où il y a ce double regard, outre tous les avantages en termes d'effectifs, cette intelligence collective qui est mise face à l'autre intelligence collective de la classe, elle manque, je pense, beaucoup en France.
Oui, on parlait de la revue Notre École la dernière fois. C'est consultable en ligne sur Internet. Alors, je ne sais plus exactement le lien.
Oui, je vais le donner.
Ah bah oui, si tu l'as, parfait.
Donc, c'est www.cnt-f. .org/notre-école tout attaché, sachant que notre école, ça s'écrit N-A-U-R-E voilà. E-C-O-L-E. Et mais sinon, en tapant sur un moteur de recherche notre école, N-A-U-T-R-E plus loin, école, on trouve assez facilement. Oui. Effectivement, il y a beaucoup d'articles en ligne, et puis il ne faut pas s'interdire de commander les numéros aussi.
Oui, tout à fait.
Ça fonctionne sur un mode thématique?
Oui, en fait, c'est une revue qui paraît à peu près entre 3 et 4 ans et qui aborde à chaque fois un thème. Alors, je vais garder le dernier, là, le tout récent pour la fin, mais on a évoqué dans les précédents numéros les compétences et résistances, parce que c'est un sujet particulièrement d'actualité. On a travaillé sur l'évaluation. On a fait deux numéros très très sympas qui étaient sur l'école dans 10 ans, où on a demandé à un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de nous imaginer l'école en 2020. Ouais. Et on a mêlé ça à des analyses, mais il y a des gens comme Gérard Mordia ou François Bégodeau ou Ayerdal pour les fans de science-fiction, et d'autres, Jean-Pierre Leparet, qui nous ont très gentiment proposer des textes originaux sur comment serait l'école dans 10 ans, et on a essayé de mêler ça avec des analyses sur l'évolution du système éducatif et en n'étant pas trop pessimiste,
ce qui est un peu dur, oui. Ouais. Et justement, dans le dernier numéro, il y a la famille avec l'école aussi.
Voilà, et le dernier numéro, c'est école et famille, qui est le monstre de l'autre.
C'est ça, parce que voilà, c'est vraiment ça. Mais vas-y.
Où on a voulu essayer de travailler un petit peu ces relations qui sont parfois difficiles.
Tout à fait, oui, parce que justement, quand on est parent, enfin moi, petite maman toute bête, on a l'impression qu'on est face à un mur quand même, par rapport à ça, qu'on veut participer aussi à la vie de l'école ou tout ça, c'est assez compliqué. Moi, j'ai eu des difficultés avec mon fils, par exemple, puisque l'institutrice de petite section voulait le déscolariser, puisque ça allait pas ni rien. Donc, au secours, aller voir la psy tout de suite. Donc, moi, bête et disciplinée, je vais voir la psy, et la psy était une précocité, enfin, tout ça. Donc, après, ça a été vraiment les prises de tête énormes. Et sinon, en général, enfin, je veux dire, pour tout le monde et tout ça, c'est assez difficile le dialogue la plupart du temps avec les enseignants. Et je pense que les parents sont assez lourds aussi avec les enseignants quand même, parce qu'ils demandent énormément de choses aux enseignants et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un clash, quoi. Il y a un clash entre les deux qui est assez énorme, quoi.
Oui, on est face à deux institutions, l'école et la famille. C'est un petit peu qu'on a parlé de monstres pour faire réagir. Et deux institutions qui ont un petit peu tendance, alors pour l'école, à nier l'individualité des élèves et des familles. Et puis pour la famille aussi, parfois, la tendance à nier l'aspect collectif de l'école et vivre avec ses enfants. On en a quelques-uns. Et c'est vrai qu'un enseignant, lui, se retrouve face à 20, 25, 30 élèves. Une école ou un collège, ça peut monter jusqu'à 600. Et du coup, on se retrouve avec des échelles différentes. Mais je pense que c'est aussi lié à l'histoire de notre école et l'école de Jules Ferry, elle se construit alors en partie aussi contre les familles, pour des raisons certaines compréhensibles, puisqu'il s'agissait aussi de mettre les enfants à l'école et non plus dans les champs et au travail. Donc elle met à distance ses familles. C'est vrai aussi que dans l'évolution de l'enfant, il y a ce moment de séparation avec la famille qui est important et l'école elle joue aussi ce rôle. Maintenant, il y a une opposition, il y a parfois des contradictions, mais aussi des incompréhensions. Et dans le numéro, il y a un article assez intéressant de collège qui ont mis en place un système. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Oui,
alors c'est très chronophage, je sais pas si moi, justement avec mes enfants à la maison, j'aurai le temps, mais tous les lundis, de 17h à 18h, je crois, ils avaient un temps d'accueil pour les familles, en leur disant, voilà, à cette heure-là, nous sommes disponibles. C'est un collège avec des grands adolescents en difficulté scolaire, et ils racontent un petit peu cette expérience, c'est assez instructif.
Ouais, alors on vous conseille d'aller voir sur le site. C'est déjà fini, une heure ça passe trop vite, comme je dis d'habitude. Et ben Grégory, merci beaucoup pour cette émission.
C'est
on vous conseille donc ce livre qui est vraiment passionnant à dévorer. Et je vous dis, à dans 15 jours. Merci Fab, merci Romain.